Книжный магазин «Клуб».
Librairie du Globe.
Bonsoir à tous et à toutes. Donc on a l'aventure de la traduction d'Eugène Onéguine par André Markovitch a commencé bien avant qu'on la rejoigne, mais je pense qu'on a fait un bon bout de chemin quand même ensemble.
Ça c'est sûr.
A commencé à l'occasion de la sortie en poche sur un bon coup de bluff avec Actes Sud. Hein. En 1998, pour lire en fait, où on avait lu l'intégralité de Eugène Onéguine en russe et en français dans les étages pendant un week-end complet. Wow. Voilà. Et c'était plutôt sympa. On lisait en russe en bas et en français en haut. Voilà. Et les gens se baladaient. Alors, c'était samedi et dimanche, je crois.
Hein. Ouais.
Vendredi.
Ouais. Je sais plus ce que
c'est. Enfin, bon, le matin, il n'y avait pas grand monde, mais c'est pas grave, on l'a fait quand même. Et à cette occasion, d'ailleurs, on avait en dehors d'André d'autres traducteurs de Eugène Onéguine qui étaient là, des acteurs, dont Antoine Kuznetsov qui avait lu aussi le tout début de Onéguine. Et puis ensuite est venue d'autres soirées avec la tentative de reconstitution des chapitres perdus.
Absolument.
On a fait ça aussi ici. Hein. Et aujourd'hui, on a le plaisir de présenter ce disque qui a été enregistré par André, sa maman, Barejan Markovitch, et Françoise Morvan, qui lit la lettre de Tatiana, et qui n'a pas pu être là malheureusement. Et je suis vraiment ravi de pouvoir le présenter, parce que c'est vrai que j'en ai entendu parler pendant que ça se faisait, et je suis content de l'avoir en main enfin. Et je vous invite à le découvrir. Et puis je vous laisse entre les mains d'André et d'Arejan, parce que moi je dois filer. Une fois n'est pas coutume, je ne resterai pas jusqu'au bout de la soirée.
Et François ne va pas manger la batonka avec nous.
Tout est prêt, vous êtes entre les mains expertes de mes collègues, et donc elles s'occuperont bien de vous.
Donc je me cache des
C'est la condition sine qua non de la présence d'André dans ces murs. Voilà. Et donc, je vous laisse.
Merci François.
Gérer ça comme vous voulez. Puis, excellente soirée à tous. Merci.
Merci. Ce soir, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. C'est-à-dire, parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on allait faire et tout. Mais en fait, l'histoire, c'est ça. C'est que. Est-ce que j'ai besoin de raconter l'histoire d'Onéguine et de maman et de moi ? En gros, vous tous qui êtes là, vous connaissez l'histoire. Et donc voilà, à un certain moment, j'ai réussi à traduire. Quand je dis j'ai réussi, c'est fait. Et puis, nous est arrivé une chose, c'est qu'en 2005, de Paume, quand on était à Nîmes, Laure Adler nous a demandé de faire une soirée où sur Onéguine. Et là, j'ai eu l'idée de demander à ma maman, ici présente, d'être avec nous. Et après, m'est venu un projet, parce que j'ai de temps en temps des projets, et j'ai entendu plein d'acteurs lire Onéguine. По-русски не понимают.
По-русски.
Oui, qui qu'on ne comprend pas du tout le russe. Bon. Et donc l'idée, c'était, j'ai entendu plein d'acteurs. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent français, qui a tout le l'idée, c'est que j'ai entendu plein d'acteurs lire Onéguine, mais j'ai jamais entendu personne lire comme maman, qui est tout sauf une actrice naturellement. Et je me suis dit que ça serait quelque chose d'important à faire, de garder la voix de maman lisant le texte. Parce que la façon dont elle... Et puis, pour une autre raison très importante, c'est que je ne l'avais jamais entendue. Je veux dire, maman m'a jamais lu Onéguine en du début à la fin. Сначала до конца мама никогда не читала Онегина. Ну просто так, понимаете, ну вот. Ну вот. А, et moi, il m'a semblé que ça serait pas mal qu'elle me le fasse. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a des éditions de livres disques, les éditions Télém, qui publient mes traductions de Dostoïevski. Et avec des acteurs que je connais. Et rendant visite à un acteur qui enregistrait les démons, le pauvre, j'ai demandé aux éditions Télém si ça ne les intéressait pas d'avoir Onegin. Et ils m'ont dit oui. Я правильно говорю?
Это правильно.
Mais la question s'est posée de savoir comment on enregistrait. Parce que maman n'était pas capable de rester debout pendant des heures dans un studio à lire Onegin. Et d'autant plus que ce n'était pas du tout le but. Alors ils ont proposé de venir chez maman et d'installer un studio portatif, mais quand même, hein, все-таки.
Да.
Но теперь ты рассказывай, как это было.
На каком языке?
На по-русски. Et ceux qui ne comprennent pas, que quelqu'un traduise.
Нет, ну, действительно, он, техник приехал ко мне с массой какой-то аппаратуры.
Le technicien est venu avec plein d'appareils.
И мы записывали, сидели, Андрей и я, и записывали несколько раз подряд. И без конца переделывали, потому что все нам казалось, что это не так, что это не годится. И, наверное, это так и было. Но, в общем, переделывали, переписывали, и он еще возился с этими колоссальными монстрами, которые заполнили всю комнату, конечно. Ну и записали. И в процессе этой записи выяснилось, собственно, я, что имеются трудности.
Maman a découvert qu'il y avait des difficultés.
О которых я не думала и не подозревала.
Dont elle avait aucune idée, auquel elle avait jamais pensé.
Был целый ряд мест в тексте Онегина.
Il y avait toute une série d'endroits dans le texte de Onegin.
Которые, к моему изумлению, выяснилось, что я не знаю, как произносить.
Que je ne savais pas comment prononcer. Et j'étais éberlué d'entendre ça, de comprendre ça.
Какие-то вещи, ну, выяснялось.
Certaines choses, on a pu comprendre.
Ну, например, когда в начале Онегин в ресторане к Толём помчался, он уверен, что там ждет его Каверин и так далее. И там пред ним раздвив окровавленный. Не приходит ведь нам в голову, как пред ним раздвив окровавленный и трюфли роскошь юных лет. И Страсбурга пирог нетленный. Ну, раз он нетленный, значит, окровавленный, да? Ясно? Это понятно. В других местах вот эти причастия прошедшего времени ни с чем не рифмуются. И тогда, как, собственно, произносить, как он, ну, вот, например, такая фраза, чуть отрок Ольгою, мы всегда говорим плененный, а он, по-видимому, плененный, потому что чуть отрок Ольгою плененный, сердечных мук еще не знав, он был свидетель умиленный, как плененный, плененный, известный.
C'est des discussions très très fines sur des formes, la prononciation de certaines formes de l'adjectif au XIXe siècle. Et maman s'est plongée là-dedans.
И я стала искала в книжках, спрашивала у людей, у специалистов.
Dans des livres, a demandé à des gens, elle a envoyé des mails en Russie à des spécialistes de la phonologie.
И я стала слушать, как читают великие. То есть существуют разные записи. Существует запись Смоктуновского, существует запись Непомнящего, существует запись Юрского. Несколько записей актеров больших, да. Во-первых, все по-разному. Ориентироваться. Во-вторых, внутри один Юрский читает по-разному в первой главе и в пятой.
Так
что тоже неизвестно, на что ориентироваться. И это я вам говорю про эти причастия, про плененные, умиленные и так далее. Но и другие вещи. И таких вещей много было. Ну, например, Ларина. Когда Пушкин описывает Ларину, мать Татьяны и Ольги, он, значит, говорит, что корсет носила очень узкий, и русский, дальше написана буква «Н» русская, да, как «Н» дальше латинская буква «Н», французский, и русский, ну, скажем, «Н» как «Н» французский, произносить умело в нос. А как читать название букв?
Parce que comment dire les noms des lettres, le N français. Chaque lettre, chaque nom de lettre en russe a un nom qui a un mot.
Avait un nom. C'est-à-dire du temps de Pouchkine, до революции, до реформы 1918 года, все буквы имели название, не говорили «Н», «Ж», «Г», «Д», говорили «Ж» – это был «живот», «Е» – это было «есть», «О» – «он» и так далее. «Н», буква «Н» – это «наш». Спрашивается, как читать эту строчку? И русский «Н» как «Н» французский, или и русский «наш» как «Н» французский, как?
И c'est à ça que j'ai confronté ma pauvre maman.
Да, это точно. Меня познакомили, ну, по почте, по мейлу, с одним специалистом по исторической фонетики.
Ça c'est la plus belle, parce que maman a par mail a reçu l'adresse d'un grand spécialiste de la phonologie historique de la langue russe.
Я ему написала все мои муки.
Si j'avais imaginé ça, moi. Mais non, et donc il lui a écrit mes tortures.
Он кое-что написал, потому что я вам перечислила несколько, но есть и другие.
Il y a d'autres questions?
Да. А в конце он мне написал. А в общем, черт его знает.
Надо произносить. И à la fin, il a dit, mais en fait, va savoir.
Ну, тогда я уже... Или, понимаете, вот еще один пример я вам приведу. Ленский. Он с лирой странствовал на свете. Под небом Шиллера и Гёте их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем. Так он с лирой странствовал на свете, под небом Шиллера и...
Гёте.
И кого произносить-то как?
Comment on dit Goethe?
Goethe, il est Goethe, il est Goethe, или как? Я абсолютно неизвестна и до сих пор не знаю. Я произнесла что-то более или менее среднее, совершенно неудовлетворительное,
но
я
до
сих пор не знаю. В общем, это я все говорю к тому, что в процессе этих записей было много сомнений, было много колебаний, поисков всякого рода. Но записали как могли, да? Записали как могли, так произнесли.
И
что, ну, Андрей читал по-французски, это понятно, а для меня это была большая проблема,
потому что,
во-первых, действительно существуют очень известные записи очень известных актеров. Юрский Смоктуновский, ну-ка, да? Да? А я тут что? Ну, в общем, как прочла, так и прочла. И совершенно не знаю, что получилось, это вы будете слушать. Ну вот, собственно, и все. И вот потом, значит, с удивлением увидели плоды.
Et en plus, la catastrophe est que maman n'a toujours pas reçu ses exemplaires. Par toutes sortes de trucs absolument invraisemblables. Et donc voilà, voilà. Et alors, l'idée c'est que. Enfin, voilà, il nous fallait. Enfin, moi je voulais qu'on entende la voix de maman comme une espèce, et pour moi, personnellement, comme une espèce de, d'aboutissement de finalement. Parce que finalement, j'ai commencé à traduire Onegin, c'était en 77.
Да.
Donc finalement,
да.
C'est-à-dire finalement de 40 ans de travail. Et voilà, c'est pour ça qu'on est réunis ce soir, c'est pour ça qu'on est très content que vous soyez avec nous. L'idée c'est quoi maintenant? On voudrait vous lire des passages, mais on ne sait pas lesquels. Donc on va naturellement vous lire le début. Mais après, ça sera, si vous voulez bien, pas à caso. C'est-à-dire ce que vous voulez. S'il y a un passage que vous voulez, on veut bien vous le lire. Et quand je dis lire, la question est que moi, je lis. Mais maman, elle dit. C'est-à-dire que en russe, читать, ça veut dire dire et lire. À haute voix. Я читаю, а мама не читает.
Ну, это мы увидим.
Ну, это мы посмотрим, да, увидим, да. Вот. Давай?
Ну, давай. Так что, начало?
Ну, давай. Но все-таки начало надо, да?
Да.
Да. А ведь вот у меня-то, может, уже медса. Давай. Ты начинаешь, да?
Ну, начну. Ну, я начну с мой дяди.
Ну, конечно, да.
Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя?
Mon oncle, un homme de morale, quand il sentit qu'il trépassait, força l'estime générale et se tailla un franc succès. L'exemple, certes, nous inspire, mais quel ennui peut être pire que de rester des nuits durant attendre au chevet d'un mourant. C'est une ignominie perfide qu'un presque mort a égayée. Il a rangé ses oreillers, compté ses gouttes, l'air languide, et soupirant, pensait tout bas, Satan, ne te prendra-t-il pas?
Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых. Всевышний волею Зевеса наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа, без предисловий сей же час позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня.
Ainsi, volant de coche en coche, pensait un jeune et fier gandin, seul héritier de tous ses proches, sur vœu suprême de Jupin. Ami de mes premiers poèmes, sans préambule, à l'instant même, présentons-le tout uniment, c'est le héros de mon roman. Mon beau camarade Onegin, naquit, lecteur, à Pétersbourg, où vous aussi vite le jour, où vous brillâtes, j'imagine. Jadis, j'y flânais jour et nuit, mais le climat du Nord me nuit.
Еще дальше.
Oui, еще. Две-три.
Хорошо. Служив отлично, благородно, долгами жил его отец. Давал 3 балла ежегодно. И промотался, наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Месье Лабе француз убогой, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил.
Commis, intègre de l'Empire, son père allait en s'endettant et se ruinait comme on respire tout en donnant 3 balles par an. Sur Evgeny veillaient les anges. Madame avait soin de ses langes, monsieur survint quand il grandit. L'enfant était vif, mais gentil. Monsieur l'abbé, pour qui l'étude devait distraire le bambin, parlait de tout d'un ton badin, fuyait toute morale rude et le tançait sans insister en flânant au jardin d'été.
Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, пора надежд и грусти нежной, месье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как денди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил.
Quand des orages de jeunesse pour Onegin vint le temps, troubles espoirs, tendre tristesse, monsieur fut chassé promptement. Mon Onegin est libre, il vole, coiffé à la dernière école, vêtu comme un dandy, enfin il voit le monde, il en a faim. C'est un Français irréprochable qu'il employait dans tous les cas, dansait fort bien la mazurka et s'inclinait d'un air affable. Chacun l'aima en le jugeant aussi charmant qu'intelligent. Nous voilà.
Ça c'est le début. On pourrait continuer. Mais est-ce que vous voudriez qu'on vous dise un passage ou un autre, hein? Parce que nous on aime tout, hein, Mamchuk. Ну вот, значит, если что, так мы...
Скажите, пожалуйста, а можно прочитать вот ту главу? Я забыл, какая глава, где Татьяна въезжает в Москву и перечисление вот это потрясающее.
Да.
Да,
это уже, наверное, наизусть не вспомнит.
Нет, я посмотрю, если можно найти.
Да, да, да.
Это 7-я глава.
Да, да, да.
Это по-французски, да.
Да, 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 это 7-я.
Посмотри,
извините. Да, да, да. C'est l'arrivée de Татьяна. Est-ce que tout le monde a lu Onegin ici? Il y a un homme bien heureux dans cette salle qui va découvrir Onegin.
Ну,
собирайтесь, потому что уже пора.
Ну что, ну вот уж близко или вот окружен своей дубравой?
Ну давай, как хочешь. Ну давай так, скажем, 30...
36, это ну вот уже близко.
Давай, 36.
Хорошо. Ну вот уже, они приедут. Значит, они, Ларины, едут в Москву и приближаются, подъезжают к Москве. Ну вот уже близко. Перед ними уж белокаменные Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные шатры. Ах, братцы, как я был доволен, когда крестов и колоколен, шатров, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг открылся предо мною вдруг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думала тебе, Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось.
Mais on approche. Devant elle, Moscou flamboie dans ses murs blancs. Sur ses coupoles étincelles, ses croix aux reflets d'or brûlants. Ah, je me suis senti renaître quand au lointain j'ai vu paraître ses parcs, ses dômes, ses palais. Oui, le plaisir que ça m'a fait. Dans ma disgrâce monotone, quand le destin me battait froid, Moscou, si j'ai pensé à toi, Moscou, ce son, comme il résonne pour le cœur russe, comme il luit, combien d'échos il porte en lui.
Вот окружен своей дубравой Петровский замок. Мрачно он нечаянной гордится славой. Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы колено преклоненный, с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Ни праздник, ни приемный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою. От селя в думу погружен, глядел на грозный пламень он.
Et voilà le château Saint-Pierre avec ses chaînes. Son renom s'est sombrement accru naguère. C'est là qu'en vain Napoléon, ivre de sa victoire ultime, l'imaginant puis il l'anime, attendit les clés de Moscou. Aurait-on vu, courbant le cou, ma ville abandonnée, défaite? Non. Au héros par trop hardi, Moscou offrit son incendie. Pas un festin, pas une fête. C'est là, plongé dans ses pensées, qu'il vit les flammes avancer. Et тут...
Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну не стой, пошел. Уже столпы заставы белеют. Вот уж по Тверской возок несется через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах.
Adieu, témoin de cette chute, château Saint-Pierre. C'est l'octroi au poteau blanc après la butte, puis le Tverski où le convoi en cahotant se précipite. File commères et guérites, lanternes de tours et magasins, palais, cosaques et jardins, traîneaux, couvents, échoppes, gosses, moujiks, chiens, fiacres et ouzbeks, mendiants, marchands français et grecs, pharmacies et autres des gosses, lions d'armoiries, balcons, lépreux. Et sur les croix volées de freux.
Bravo.
Mais en fait, я вам очень благодарен, потому что je m'étais jamais rendu compte jusqu'à maintenant de où ça venait. Il y a Pierre Verras de Kassichas de Michel. Je dois être votre после этой медлительной и величественной оды, que ça vient après cette ode solennelle à Moscou, et que tout à coup, ça se précipite comme ça.
Et ça ralentit à la fin.
Oui. Oui. Voilà. Et sur les croix, volées de Freud. C'est énorme. Je n'avais pas rendu compte de ça. Comment connaît Onegin par morceaux. Je connais d'un côté, naturellement, cet hymne à Moscou, et naturellement, je connais cet emballement de la route. Et naturellement, j'avais traduit l'un d'abord et l'autre ensuite. Je veux dire, c'est clair. Et t'as tout le cas, si tu as dit, je te snatch à l'aide, pas ton temps. Que c'est d'abord ça et après. Неплохо написано.
Не последний поэт, действительно.
Олег Жанин, когда Онегин едет в театр, это блистательно, полувоздушно.
Да.
Скучку волшебному послушать.
Это трудно хорошо читать.
Это трудно.
Ну, давай, да.
Давай, да, давай.
Подожди.
Это, кажется, 18-е.
Это первая глава.
Первая глава. Первая глава.
Это
да, нет, подожди, нет, не 18, а 19.
20.
Нет, подожди, 20.
Нет,
20.
20. Театр в полон, ложи блещут, партер и кресло все кипит. В райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другую медленно кружит. И вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от устеола. То стан совет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет.
La foule attend. Les loges brillent, fauteuil, parterre, tout reluit. Le poulailler pressé frétille et s'élevant, le rideau bruit. Aérienne, étincelante, au seul archet obéissante, un cœur de nymphe l'entourant se tient Istomina, touchant d'un pied les planches, de l'autre elle dessine un cercle calculé, et là un saut, et là elle est la plume ici, qu'Éole appelle taille pliée et dépliée, battant du pied son autre pied. C'est quand il est au théâtre.
Quoi d'autre? Un письмо d'Axia?
Ну, давай.
Хотя бы чай.
Ну, я прочитал. Dans notre disque, c'est Françoise qui lit la lettre de Татьяна. Donc, vous verrez.
Okay.
Mais, давай. Ну, хоть начало.
Давай. Так, подожди, я все-таки его открою. Письмо.
On va continuer comme ça, si vous voulez bien. Mais on peut répondre à des questions, on peut quoi. Et le
разговор с няней, немножко другую.
Ah non, давай разговор
с няней.
Разговор с няней, давай. Давай, да. Ищи это. Сейчас мы...
Это значит 17-е. Да, 17-я строфа, 3-я глава.
17. Подожди, я запуталась в главах, но сейчас дойдем.
Сначала расскажи, почему у тебя такой маленький Онегин?
Я тоже обратил внимание, но они же трудно читать, мелко.
У меня такой маленький Онегин. Вот почему. Во время блокады Ленинграда мы были всю первую зиму, весь первый год в Ленинграде.
Que pendant le blocus de Ленинград, maman a passé tout le premier hiver à Ленинград en blocus.
И в школу я не ходила, мне было 7-8 лет.
Maman allait pas à l'école.
И я сидела целые дни, и за отопления не было, поэтому было очень холодно. Я сидела, закутавшись во все, ну, во все, что могла, и читала книжки. А книжки, ну, у 7-летнего ребенка, 8-летнего, какие книжки? Ну, какие были, я читала и старалась читать те места, где говорилось о еде. Мы же голодные были все, естественно. И попался мне Евгений Онегин. Издание 37-го, по-моему, года. И стала я его читать. Что я там понимала, это я совершенно не знаю. Наверное, ничего. Ну, неважно. Дети же неважно, понимают, не понимают. И что-то я запомнила.
Я В
7-8 лет запоминаешь же. Ну, что-то я запомнила. Хорошо. В какой-то момент мою маму, которая была врачом, послали. Значит, эвакуировали людей в это время много. И, в частности, эвакуировали детские дома. И маму послали в качестве врача с эшелоном детских домов. И вот мы поехали втроем, мама, я и моя тетя. И ехали мы без конца, мы ехали в район Волги. Длилось это неделю, поезд ехал, потом стоял, потом опять ехал, потом опять стоял, и все умирали со скуки. И, ну, знаете, как детей просят, деда, девочка, расскажи стишочек.
И он demande, comme ça, vous savez, les enfants, petite fille raconte, dis-moi un poème ou quelque chose.
И девочка, запомнившая какие-то стихи из Евгения Онегина, начинает, понимаете, мой дядя самых честных правил. И я ему валяла, я помнила, ну, как, далеко не все, конечно, но какие-то отрывки я помнила. И я ему валяла там, не влюблена ли она в того же, Буянов сватался от... Чёрт знает что. И, конечно, и дети, которые ехали, и, главное, воспитатели, взрослые, да, умирали от смеха, им было развлечение. И вот в конце, когда мы уже приехали, одна из воспитательниц подарила мне, у нее был вот такой, вот такого размера экземпляр Евгения Онегина, и она мне его подарила. Самое удивительное, это я прочла уже потом, там была надпись.
Le plus étonnant, je l'ai vu après, il y avait une inscription.
Тогда я не смогла прочесть надпись от руки, да, на маленькой книжечке. Но там было написано: «Милой и отзывчивой Ольге, кажется, Осиповне Раевской», и дата, когда она, когда ей подарили эту книгу. И дата это был 41-й год. То есть в блокаду подарили, кто-то в блокаду подарил экземпляр Евгения Онегина. И я хранила с тех пор эту маленькую книжечку, всегда возила ее с собой. И как-то Были мы в Италии.
Он était en Italie.
И были мы в Неаполе.
À Naples.
На машине, к нашему несчастью. И en оставили voiture. Где-то там машину.
On a laissé la voiture.
Там было очень мало вещей.
Rien, mais...
Но машину ограбили. И тот
les...
чемоданчик маленький,
et
который там был, украли.
И
в нем украли Евгения Онегина. Я была в ужасе. И моя дочка Ира, маленькая совсем, видя, что мама в полном расстройстве, бегала вокруг меня и горестно кричала: «Бедная мамочка, украли Гения Невина!»
Гения
Невина! Ну ладно. Я потом рассказывала своим друзьям о том, как это произошло. В какой-то момент, да, одна из моих ленинградских подруг, я из Ленинграда, одна из моих ленинградских подруг, когда я была как-то, я уже жила здесь, но я была в Ленинграде, мне вдруг приходит и дает мне вот эту книжечку. Эта книжечка еще меньше, чем та. Но она говорит: ты знаешь, я вот была в доме книги. И я увидела там эту книгу. Я очень обрадовалась. Я тебе ее дарю вместо
той,
которую у тебя украли.
Это факсимильное издание, это факсимиле первого издания.
Это факсимиле первого издания.
Это факсимиле de l'édition.
Орфография Пушкина и все. Ну вот, вот откуда такая маленькая книжка. Ну ладно, мы все, наверное, да?
Как все? Мы не читали...
Мы не читали, подожди, чего мы не читали?
Разговор няни с...
Мы няню не читали.
Да. Еще можно? Вы êtes pas trop fatigué, ça va?
Да, вот тут няня, да. Да, это
17.
Не спится, няня, здесь так душно. Открой окно, да сядь ко мне. Что, Таня, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чем же, Таня? Я, бывало, хранила в памяти немало старинных были, небылиц. И про злых духов, и про девиц. А нынче все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда. Зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ли ты влюблена тогда?
Ну-ну, viens, ouvre la fenêtre. Comment dormir, il fait si lourd. Tania, tu te sens mal, peut-être? Non, parlons de tes jeunes jours. De quoi, Tania? Dans mon jeune âge, on en disait dans les filages, plein de vieux contes, de vieux dits, plein sur les fées et les esprits. Mais vois-tu, je perds la mémoire. Tania, hé, quoi? Oui, mon pain blanc, je l'ai mangé depuis longtemps. On oublie tout, pas des histoires. Dis-moi ta vie, toi, autrefois. Tu étais amoureuse, toi?
Hippolyte, Tania, veux-tu l'être? Мы не слыхали про любовь. А то бы согнала со света меня покойница свекровь. Да как же ты венчалась, няня? Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет. А было мне 13 лет. Недели две ходила сваха к моей родне. И, наконец, благословил меня отец. Я долго плакала со страха. Мне с плачем косу расплели и с пением в церковь повели.
Moi, amoureuse, allez, arrête, on n'avait pas d'amour chez nous. Ou elle m'aurait fait la fête, feu la maman de mon époux. Pourtant, nous nouait ton mariage. Bon, il fallait. Mais d'un âge, j'en avais plus que mon Ivan. Et moi, j'avais juste 13 ans. Deux, trois semaines, la marieuse a travaillé. Et pour finir, mon père est venu me bénir. Mais j'avais peur, moi j'avais peur, la vraie pleureuse. On m'a défait ma natte en pleurs, conduit au temple avec des cœurs.
И вот ввели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня. Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты нездорова. Господь помилуй и спаси. Чего ты хочешь? Попроси. Дай окроплю святой водою. Ты вся горишь. Я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена. Я, дитя мое, Господь с тобою, и няня девушку с мольбой крестила дряхлой рукой.
И donc j'entrai dans leur famille. Mais tu m'écoutes, mon enfant? Ah, ça m'oppresse, ma gentille. Nounou, l'angoisse me reprend. Non, j'ai des larmes qui me viennent. Mon enfant, dis-la-moi ta peine. Que le Seigneur veille sur toi. Dis-moi, tu as besoin de quoi? Que je t'asperge d'eau bénite? Un front en feu. J'ai le cœur lourd. Tu sais, Nounou, c'est de l'amour. Dieu te protège, ma petite. Et la nourrice marmonna sa prière pour Tatiana. Правда, тоже невероятно. Невероятно. Еще немножко, если хотите.
Да, письмо. Письмо?
Письмо? Ну, давай письмо.
Ну, давай письмо. Это у нас 390.
Да. Это после 31, да.
Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы б не узнали никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом все думать об одном и день и ночь до новой встречи. Но говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне, все вам скучно. Все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем? А?
Давай.
Давай.
Или давай ты.
До конца?
Нет. Ah, non, tada, pas dit. Je vous écris. Quoi d'autre à dire? J'ai tout dit si je vous écris. Je sais, cela peut vous suffire pour me punir par le mépris. Et dans ma peine, mon martyr, vous qui avez un cœur qui bat, vous ne vous détournerez pas. Au début, j'ai voulu me taire. Croyez-moi, vous n'aurez pas su mon déshonneur si j'avais pu nourrir l'espoir, même éphémère, de vous revoir de temps en temps dans la maison de mes parents. Juste écouter ce que vous dites, répondre un mot et seul, après, penser, oui, sans arrêt, attendre encore une visite. Les gens, dit-on, vous les fuyez, dont vous ennuie dans nos retraites. Chez nous, si vous vous ennuyez, pour nous, vous voir est une fête.
Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда не знала б вас, не знала б горького мучения, души неопытной, волнения, смирив со временем. Как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга, et добродетельная мать.
Par quel hasard être venu? Dans mon désert, dans mon silence, je ne vous aurais pas connu. J'aurais pu vivre sans souffrance. Le feu d'un cœur sans expérience avec le temps se serait tu. Quelqu'un aurait compris mon âme. Je serais devenue sa femme, mère et modèle de vertu.
другой, нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То в высшем суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала. И в мыслях молвила, вот он, не правда ли? Я тебя видала, я тебя слыхала, ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала, или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновение, не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, приникнув тихо к изголовью? Не ты ли с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты, мой ангел ли хранитель, или коварный искуситель? Мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, меня никто не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, единым взором надежды сердца оживи, и в сон тяжелый перерви, увы, заслуженным укором. Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю.
Tu lis la traduction, s'il te plaît.
Si, si.
Un autre, non, personne au monde n'aurait jamais reçu ma foi. C'est un décret des cieux qui gronde. Ils ont tranché, je suis à toi. Ma vie entière fut un gage de notre alliance dans l'amour. Des dieux, tu portes le message, gardien fidèle de mes jours. C'est toi qui me venais en rêve, invisible et déjà chéri. Tes yeux brûlaient dans mon esprit, ta voix me poursuivait sans trêve depuis longtemps. Rêver cela ? Non. Tu entras, je fus certaine. Un froid brasier emplit mes veines. Je lus dans l'âme, me voilà. Et quoi ? Ta voix m'est familière, tu me parlais, douce lumière, lorsque j'aidais les miséreux ou soulageais par la prière du cœur le trouble douloureux. Et là, à la minute même, n'est-ce pas toi, vision que j'aime, qui dans la transparente nuit viens effleurer ma chevelure ? Toi dont la voix aimante et pure ressuscite l'espoir enfui, qui donc es-tu ? Es-tu un ange ou un démon au charme étrange, résout le doute qui me prend ? Peut-être tout cela est vide ? L'erreur d'un cœur encore candide, mon sort peut-être est différent ? Mais soit. Accepte mon offrande, mes jours sont tiens, si lourds qu'ils soient, je suis en larmes devant toi, j'implore que tu me défendes. Tu vois que je suis seul ici, qui me comprend ici ? Personne, je me languis, je déraisonne et je dois donc me perdre ainsi. Viens me chercher, j'attends. Ranime d'un seul regard ce feu qui joue, ou par un blâme légitime, rompt l'illusion d'un songe fou. C'est fait, je ferme cette lettre. L'effroi, la honte au fond du cœur. Mais mon garant est votre honneur. J'ai foi en lui de tout mon être. Сам перевод 27 лет.
Я примерно так и подумала.
Но...
Почти столько же, сколько Пушкин писал.
Он нет, он
меньше.
Он нет, он за 10 лет.
Осенью.
Нет, да. Я начал, когда, ну вот когда я работал с Евсеем Григорьевичем Эткиндом, когда мне было 17 лет, и кончил
Ну, вышло в 2008 году.
Да, ну, да, но на самом деле я перевод кончил во втором году, в 2002 году.
Слушайте, уже хорошо, что вы дошли до конца. Это все-таки эпохальная затея. Мало кто за такое возьмется.
Ну, я, как вам сказать, я всегда знал, что вот я, вот когда, если я это сделаю, то я ж, ну это, как сказать, я не знаю, как это сказать, это лучшее, что я сделал. Я это знал. Это, ну я говорю это так странно, да, но
нет.
Вот это. И дико, bon, voilà, je sais que c'est ce que j'ai fait de mieux. C'est bizarre de dire ça, mais c'est comme ça. Ce qui d'ailleurs pose un problème après, hein. Parce que j'ai pas l'intention de décéder là maintenant. Et donc, voilà.
Et ça dépend de quel critère tu estimes que c'est le mieux que tu fais. Pourquoi
tu estimes? C'est comme ça.
По совпадению, по попаданию, ты так много сделал?
Не могу сказать. Je peux pas dire pourquoi je sais que c'est le mieux, ce que j'ai fait de mieux. Mais c'est... Ça se juge pas.
C'est une expérience essentielle de se confronter à un texte.
Oui, pareil. Oui. C'est quelque chose... Quand... je sais qu'il y a des moments comme ça dans ma vie qui sont importants. Quand j'ai commencé à entendre Onegin, et j'ai commencé à entendre Onegin pas avec ma maman, mais avec ma grand-mère, quand j'avais, je sais pas un an. Et je sais pas que je m'en souviens, mais je m'en souviens. Et je sais que les premiers mots de russe que j'ai dit, это был Онегин, это был Voilà, enfin, c'était, je parlais, je dis toujours ça, que j'ai pas appris le russe, j'ai appris Pushkin. Parce que ma grand-mère, бабушка, мне читала Пушкина все время. Voilà, ça c'est un moment. Après, quand j'ai travaillé avec Eugène Onegin, et avec Eugène Onegin, sur Eugène Onegin, avec Ephim Etkind. Et que pour la première fois, j'ai commencé à sentir qu'est-ce que c'était que la strophe. Parce que jusqu'à ce moment-là, c'était, je ne me posais pas la question. Et puis, le moment, un autre moment très important de ma vie a été quand j'ai compris que je ne savais pas traduire. Parce que Etkind m'avait demandé de corriger une vieille traduction pour les éditions de l'âge d'homme, c'était en 81. Et je l'avais fait. Et je savais que c'était pas bien. J'avais 20 ans et c'était un des moments où j'avais compris que ce que j'avais fait, c'était pas bien. Mais que j'avais fait le mieux que je pouvais. C'est-à-dire que j'étais pas capable de faire mieux. Et un autre moment... Ça a été quand, ben, j'ai raconté cette histoire très souvent, quand dans le train, je me récitais Onegin en russe naturellement, et que tout à coup je me suis surpris à le réciter en français. Et que j'ai compris que j'étais en train de le traduire sans, que j'avais commencé à le traduire sans m'en rendre compte. Et que je l'avais pas écrit, et que donc c'était que sur le son. Un autre moment important était quand j'ai dit les trois premières strophes à Françoise, qui relie tout ce que je fais comme je relie tout ce qu'elle fait, et qui est pour moi un critère absolu. Si elle dit que ça va, ça va. Et elle a dit, ça va. Elle a dit, c'est bien, c'est intéressant. Continuez. C'est bien, continuez. Quand j'étais malade, quand j'étais adolescent, j'ai été souvent malade. Et il y avait un tableau, on avait des tableaux d'honneur à l'époque. Et donc le proviseur, pour m'encourager, m'avait donné un tableau d'honneur avec encouragement, mais je n'étais pas du tout allé à l'école. Et donc il y avait écrit
français, absent, anglais, absent, absent. Appréciation du proviseur, c'est bien continué. Et donc, voilà, c'est bien continué.
Les deux continuent.
Et puis, continue. Et donc, et puis, au fur et à mesure que j'avançais, parce que je faisais tout de tête, j'écrivais pas. Je n'écrivais que quand j'avais fini la strophe, pour la noter, pour la. Là, je sentais que c'était pas mal. Enfin, je sais pas comment dire ça. Hein? Et que tout à coup, c'est-à-dire quand. Et c'était. J'ai refait ça à partir de 97, 98. C'est-à-dire qu'en 20 ans, j'avais fait autre chose aussi. Mais que eh ben, j'avais travaillé. Que j'étais mieux à 38 ans qu'à 18. Et c'était ça aussi l'impression, tu vois.
Mais comment tu peux le définir, ce moment où d'un seul coup tu sens que tu traduis vraiment? Il y a quelque chose
ouais, qui se... Ouais, c'est idiot de dire ça, parce que c'est comme si on se faisait du compliment, quoi, tu vois.
Non,
mais oui. Mais c'est que... Eh ben, c'est-à-dire, quand j'entendais la langue d'une façon objective, c'est-à-dire quand j'étais capable de me rappeler, de reproduire d'après moi, ce qui me semblait, les styles différents. C'est-à-dire quand, en quelque sorte, ma propre langue ne m'appartenait plus. C'est-à-dire parce que ce qui est très compliqué avec Pouchkine, c'est cette multiplicité de voix. Et il fallait pas que, comment dire, on voit que c'était une seule personne qui avait écrit. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et donc, à partir d'un certain moment, j'ai senti ça, et puis après, je me disais le texte russe, enfin, et puis en fait, je voyais à la réaction de Françoise. Parce qu'à la fin, Françoise, elle attendait, chaque jour, elle attendait une strophe. Parce que c'était une strophe par jour. On a fini par appeler ça « strophée ». Avez-vous strophé? Du verbe catastrophé, si vous voulez. Et donc, quand je bistrophais, c'était extraordinaire. Donc, voilà. Et ça, c'était ce moment-là. À quatorze chasse, вообще. Oh, ben il faut s'arrêter.
Avant que vous s'arrête, je pense que nous, les lecteurs, on est extrêmement contents que vous avez eu ce courage et que vous avez ce trophée.
C'est-à-dire qu'il faut... Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est maman qui, dans un milieu entièrement français, pas entièrement, mais majoritairement français, a gardé et a continué à nous parler russe, et qui a fait qu'on a gardé le russe, mais pas le russe simplement, mais Onegin et Pouchkine et tout ça. Et voilà. Et moi je me souviens comment que, donc quand j'étais adolescent, et que maman m'amenait au lycée, me ramenait au lycée, parce que j'avais du mal, quand j'avais du mal à marcher. Et donc maman m'attendait à la sortie. Elle avait, dans la voiture, elle avait un petit volume d'Onegin, pas celui-là, de poche, qui partait en lambeaux de temps en temps. Parce que tu t'agda pirichi, tu vois, c'est
juste. Da.
Nous vont. Et donc, il y a ce disque qui est comme
l'aboutissement d'un chemin, quoi, je ne sais pas comment dire ça.
Voilà ce qui arrive si un enfant est biberonné au pouchkine, s'il y a l'exemple de courage quotidien à la maison. Parce que c'est le courage de garder quand même la culture linguistique, c'est pas évident.
Такая у меня мама, и у нас мама, вот такая. Ну, спасибо, значит, вот книга. И aussi, la dernière soirée qu'on avait fait, maman et moi aussi, et Irène était là aussi, c'était les souvenirs de notre grand-tante, Marie Michaelovna, que maman a tout recopié, retapé et édité en russe. Et donc il y a encore ces livres-là. Et il y a Onegin, naturellement. Ну вот. И теперь, значит, книжки, пластинки и ватрушка. Merci à vous.
Книжный магазин «Клуб».
Librairie du Globe.